Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Pendant la pandémie, le marché immobilier a explosé, ce qui a fait grimper les prix de manière stratosphérique à coup de surenchère. Mais depuis plusieurs mois, les actions vigoureuses de la Banque du Canada pour freiner l'inflation ont généralement eu un impact à la baisse sur le coût des propriétés. Reste que le portrait de l'immobilier n'est pas homogène partout au Québec. La journaliste Lauriane Croteau nous dépeint les nuances du réajustement actuel. Bonjour Lauriane.
Bonjour Philippe.
Lauriane, tu as suivi de près l'envolée du prix des propriétés là, depuis le début de la pandémie. Où est-ce qu'on en est en ce moment?
Bien déjà, la situation a vraiment changé depuis un an, depuis donc le printemps 2022. On était alors dans un pic de ce que moi j'ai envie d'appeler une folie immobilière. Mm-hmm. Vraiment, il y avait la compétition parmi les acheteurs. Une transaction résidentielle sur deux se concluait avec surenchère.
Une sur deux?
C'est énorme, vraiment. Donc, cette surenchère-là s'est reflétée évidemment dans les prix. Les prix avaient augmenté, je pense, l'année dernière de 25 %. Mmh. Et déjà en 2021, c'était augmenté de 15 %. Et donc là, je pense que j'ai envie de dire c'était nécessaire hein, que ça redescende un petit peu. Donc, depuis le sommet qu'on a vécu en avril 2022, les prix ont diminué jusqu'à décembre. Ils ont diminué de 19 % dans le résidentiel, donc okay. C'est énorme. Mais depuis décembre, on voit comme une petite hausse.
Un petit rebond
qui est peut-être propre au printemps. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit à chaque année. Les gens veulent possiblement changer du locataire vers le propriétaire. Mm-hmm. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus de compétition, ce qui augmente les prix. Mais cette année, c'est assez notable parce que plutôt que 19 % la tendance qu'on voyait à l'automne, les prix ont seulement baissé de 4 %
Donc, un coup de frein.
Exactement. Donc, ce ralentissement-là pour les courtiers, ça fait du bien, c'est un soulagement parce mm-hmm. qu'eux autres, ils ont travaillé comme des fous avec leurs clients l'année dernière. Les visites étaient rapides, il n'y avait pas le temps d'en discuter, de faire des offres d'achat avec des conditions, par exemple. Tandis que là, on voit que les offres d'achat comportent notamment la condition de vente de notre propre maison, par exemple, mm-hmm. ou d'inspection.
Il y a eu beaucoup de cas où il n'y avait même pas d'inspection là, dans les dernières années. Là.
C'est ça, à cause de la fameuse compétition entre les mm-hmm. acheteurs. Et donc là, on est dans des conditions qui sont un petit peu plus normales, on me dit. Donc ça, c'est pas vrai partout, par contre. Justement, pour mieux évaluer l'évolution du marché immobilier, au cours de la dernière année, moi, j'ai voulu cartographier la variation des prix par région.
OK.
Donc, pour ce faire, j'ai obtenu 1500 pages PDF.
1500 pages de PDF?
C'était quelque chose à nettoyer. Okay. J'ai donc voulu extraire les données de ça, mm-hmm. des prix de vente des maisons. Donc, j'avais les données pour les premiers trimestres de 2022 et de 2023. Le premier trimestre, ça, c'est le 1er janvier au 31 mars.
OK.
Et quand j'ai appliqué un seuil de 5 propriétés minimum vendues, à la fois en 2022 et en 2023, ça m'a donné seulement 150 municipalités. On en a quand même plus de 1000 au Québec.
Pourquoi tu dis un minimum de 5? Qu'est-ce qui est le barème pour toi là, à ce niveau-là?
Bien, je me disais, ça me prend un échantillon qui est quand même suffisant pour en extrapoler des tendances.
Okay,
c'est sûr
d'accord.
que 5, c'est pas énorme. Par mmh. exemple, Centris, eux autres, ont un minimum de 30. Donc, on est loin de ça, mais je trouvais que c'est intéressant quand même de regarder qu'est-ce qui s'est vendu au cours de la dernière année. Et donc, on le voit très bien sur la carte. Hein. Je pense que tu l'as vu,
oui.
Philippe. C'est pas une accalmie qui est uniforme partout au Québec.
Je suis sur la carte en ce moment. Je regardais la grande région de Montréal. Je me rends compte que ça baisse beaucoup du côté de la Couronne-Nord et de la Couronne-Sud.
Oui, c'est drôle que tu mentionnes les banlieues parce que moi, il y a un an, un des articles que j'avais écrit sur la question, mon titre, c'était que les banlieues, c'était l'épicentre de la mmh. surenchère. Mmh. Donc là, ce qu'on voit un petit peu se passer, c'est le contrepoids de ces hausses-là qui étaient vertigineuses, franchement.
Oui.
Dans cet article-là, justement, j'avais parlé à un homme qui s'était divorcé. Il avait un petit garçon de 3 ans, puis ça le désolait de voir qu'après son divorce, il a dû vendre, évidemment, la propriété. Il était en appartement à ce moment-là et il voyait pas le jour, finalement, où est-ce qu'il allait pouvoir offrir de nouveau une cour à son petit garçon.
Il avait l'impression d'avoir perdu 10 ans, je me souviens de ça.
Là. Oui, exact. Ça a marqué beaucoup de gens, hein, cette photo-là, entre autres de lui avec la petite cabane qui est un jouet pour son garçon. Là. C'était des conséquences assez dramatiques sur la vie des gens. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le marché de ces banlieues-là de Montréal se calme, les prix redescendent. Et parmi les municipalités où on voit les plus grandes corrections de prix, ce qu'on appelle, Il y a Saint-Lambert sur la rive sud où est-ce que ça a diminué 35 %. Il y a Saint-Constant, 29 %. Du côté nord, on a du Vernet à Laval, un quartier. Donc, parce que ça a baissé de 25 % et la plaine à Terrebonne de 20 %.
Mais je veux dire, des baisses de 35 % de 25 %, on explique ça comment des chutes aussi importantes?
Ça dépend à qui on demande et qu'est-ce qu'on regarde comme phénomène exactement. Donc, si on demande par exemple à Charles Brandt, ça c'est un analyste de l'APCQ, l'APCQ qui est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, lui, quand il regarde donc la province en entier, il remarque que la surenchère, c'est vraiment ce qui a augmenter les prix. Et donc, évidemment, aujourd'hui, le marché redescend à cause de cette exagération-là, si on veut. Et ce qu'il me dit, donc, c'est que soudainement, les prix se sont réajustés au prix affiché. Donc, on enlève finalement l'extra de 100 000 $ par exemple, que les gens mettaient l'année dernière. Mais il y a aussi des facteurs locaux qui peuvent avoir un effet sur les prix. Par exemple, j'ai parlé à une courtière de Laval. Je lui demandais pourquoi est-ce qu'à Duvernay, ça avait autant baissé. Elle me disait que c'est une population qui était vieillissante, qui avait décidé de rester plus longtemps chez elle, par exemple, à cause que c'était difficile. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire de visite, ou en tout cas, il y avait toutes sortes de contraintes. C'était difficile pour ces gens-là qui étaient peut-être plus vulnérables. Et donc, ils ont plutôt repoussé le moment de vendre leur maison. Aujourd'hui, on voit que l'inventaire est très haut dans Duvernay. Et pour elle, c'est ce qui explique que les prix soient bas. Donc, il y a beaucoup de maisons à vendre et très peu d'acheteurs qui sont prêts à faire l'achat très important d'une propriété dans les conditions économiques qu'on voit.
Donc, ça touche les prix, ça influence les prix vers le bas.
Exactement. Mais ça ne veut pas dire que la surenchère est derrière nous, toutes ces tendances-là qu'on voit. J'ai parlé aussi avec des acheteurs et clairement, même si on n'est plus dans le pic de la surenchère, ce n'est pas toujours facile d'accéder à la propriété. Par exemple, Émilie Daigneault, elle, c'est une jeune mère de famille. Pendant la pandémie, donc en plein boom, ils ont visité des tonnes de maisons. En 2020-2021, ils ont fait 15 offres d'achat et ça ne s'est pas passé comme ils voulaient.
Nous, on a commencé à magasiner là, quand la pandémie a comme explosé, là, vraiment première vague. On a fait facilement 30 visites. À la queue leu-leu, 5 minutes pour visiter. Ils prenaient les offres le soir même, surenchère, toute l'équipe. On a fait à peu près 15 offres, toutes en surenchère, puis on n'en a gagné aucune.
Donc, ils ont fini par racheter le duplex de son père à un prix avantageux, mais ils ont eu entre-temps le petit Léo, qui a 15 mois, et c'est un 4,5 dans lequel ils vivent, donc ça devient un petit peu petit s'ils veulent un deuxième enfant.
Oui, un peu serré.
C'est ça. Donc, ce qu'elle me dit, c'est que pour l'instant, ça va, ils ont les moyens d'attendre, si on veut, mais si jamais elle tombait enceinte, il va falloir chercher quelque chose de plus grand, là. Donc ça, c'est le cas d'Émilie. Évidemment, elle est quand même chanceuse dans sa malchance, même si c'est pas parfait. Il y en a d'autres qui sont autrement plus dans le pétrin, notamment à cause de la crise du logement.
Ouais.
Donc, j'ai parlé à des gens qui ont d'autres solutions, disons, qui leur permettent d'avoir les moyens d'acheter et de ne pas rester en logement. Notamment, il y en a qui ont acheté une mini-maison.
Ah oui?
Et il y a quelqu'un d'autre aussi à qui j'ai parlé qui s'est installé dans un parc de maisons mobiles.
Où ça?
C'était à Laval, à Duvernay. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, il y a des personnes âgées qui habitent dans ce parc de maisons mobiles-là, mais il y a aussi de plus en plus de jeunes familles qui s'installent là.
Oui, mais si on revient à cette tendance générale de la calmie, de la baisse des prix, il y a quand même des endroits au Québec où on observe un phénomène inverse. C'est le cas sur l'île de Montréal.
Oui, c'est ça. Malgré une baisse importante des ventes, quand même de 38 %, Montréal, on dirait qu'elle est à l'abri des corrections de prix. Surtout les quartiers centraux comme Villeray, puis finalement tout ce qui est autour de la ligne orange. Mais au contraire, les extrémités de l'île, comme Pierrefonds-Roxboro, Kirkland sont dans l'ouest, ben, ça ressemble plus aux banlieues, donc le phénomène qu'on parle de baisse de prix. Le prix médian des copropriétés a seulement baissé de 2,5 % et celui des maisons unifamiliales de 7 %.
Malgré une baisse des ventes de 38 %, donc il y a comme des effets teflon, là.
C'est ça. Donc il y a quand même un effet de rareté, je pense, qui fait que les gens continuent de vouloir acheter sur l'île de Montréal avec le retour en plus du travail en personne. D'ailleurs, mon collègue Zachary Goudreau a partagé notre carte avec des courtiers de l'île de Montréal pour leur demander qu'est-ce qui expliquait ces hausses et ces baisses-là. Et ils ont remarqué qu'il y avait un effet REM, c'est-à-dire que les prix ont augmenté dans les arrondissements où le train léger va passer. C'est le cas de Saint-Laurent et d'Auntie-Cartier-Ville où les prix sont 21 % plus élevés cette année qu'à la même période en 2022.
Wow, 21 %
Puis en plus, ça s'ajoute aux hausses quand même des dernières années avec la folie immobilière dont on parle.
Ben oui. Puis là, je regardais la carte, puis il y a d'autres endroits loin de Montréal où les prix ont aussi augmenté. Et là, je pense à Rimouski, par exemple, c'est quelque chose d'assez surprenant.
Oui, le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même un cas particulier. On en a quand même beaucoup parlé dans les dernières années. Il y a une crise du logement en ce moment. Et les prix, donc, dans la région ont augmenté de 8 % cette année. C'est vraiment la région où est-ce que ça a le plus augmenté dans toute la province. Donc, c'est vraiment la crise du logement qui est encore très présente. Hein. Le taux d'inoccupation, l'an dernier, c'était quand même de 0,2 %
Oh, c'est pas beaucoup, ça.
Non, et donc, ça crée une pression sur les prix à la hausse. Les propriétaires ne veulent pas nécessairement vendre dans un marché où ça va être difficile de trouver pour déménager, pour acheter. Mais il y a aussi toute la question des personnes âgées dans la région qui n'ont pas nulle part où aller. Apparemment, qu'il y a beaucoup de fermetures, notamment de RPA. Et donc, ces personnes-là n'osent pas vendre leur propriété. Il y a juste 3 municipalités qui ont pu être incluses dans notre analyse parce que toutes les autres municipalités de la région avaient moins de 5 ventes par trimestre.
Comme on disait au début de l'épisode.
Exactement, mon fameux seuil. Donc, mon échantillon n'est pas immense, mais quand même, parmi les 3 municipalités, il y en a 2 où il y avait des hausses considérables de prix. C'était Rimouski, où est-ce que ça a augmenté de 22 % et Rivière-du-Loup de 10 %
Décrocher la une revient après ceci. Là, tu nous parlais de la région du Bas-Saint-Laurent qui a connu la plus forte hausse des prix, selon ton analyse. Mais au contraire, la région juste à côté, la Gaspésie de la Madeleine, c'est la région qui a vu la plus forte baisse à l'échelle du Québec. Comment on peut expliquer ça?
Mais d'abord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine, c'est un petit peu le même phénomène qu'on voit dans les Laurentides.
Okay.
Donc, respectivement, disons, la Gaspésie et les îles de la Madeleine, on voit une baisse de prix de 20 % tandis que dans les Laurentides, c'est 10 % C'est vraiment les plus grosses baisses de prix à l'échelle du Québec. Donc, au cours des 2 dernières années, il y a eu un phénomène d'exode en région dans le contexte pandémique.
Ouais, le fameux grand move, là.
Exact. Tu l'as vécu comme moi, Philippe, on était en télétravail.
Oui.
Donc, ça faisait un petit peu rêver d'imaginer qu'on a des montagnes ou la mer.
De sortir des 4 murs de notre pièce.
Exactement. Et donc, il y a beaucoup de monde qui ont fait des achats émotifs dans ce contexte-là. Ouais. C'était pas nécessairement fait pour tout le monde. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, parmi les courtiers. Donc, on imagine, il y en a peut-être parmi eux qui ont voulu retourner en ville ou en tout cas s'acheter un pied à terre à Montréal et ça fait qu'ils ont 2 propriétés. Ça, c'est donc une partie des gens qui ont acheté à l'extérieur et qui veulent vendre aujourd'hui. L'autre partie, qui est peut-être la majeure partie des gens qui vendent en ce moment, c'est les résidences secondaires.
Mm-hmm.
Ça constitue apparemment 75 % de ce marché-là et qui aujourd'hui, avec le contexte économique qui est difficile, très incertain aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir et donc on veut vendre au cas où les taux augmentent encore.
Oui, mais parlant du contexte économique plus compliqué, Lauriane, on ne s'attend pas à ce que ça s'améliore rapidement.
Non, on imagine quand même que le pic est derrière nous, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. La Banque du Canada a haussé 9 fois quand même les taux d'intérêt depuis mars 2022 pour freiner l'inflation. Parmi celles-ci, il y en a une quand même cette semaine, encore une fois. Ça confirme les craintes des gens qui attendent avant d'acheter. Donc, c'est le fameux attentisme dont parlait Charles Brandt. Les gens attendent avant de voir si c'est vraiment le bon temps pour acheter. L'inflation ne s'est pas nécessairement calmée au rythme qu'on imaginait, ce qui risque de, finalement, pelleter un petit peu le problème là plus tard. Tout ça, ça s'ajoute à un contexte qui est donc défavorable pour les acheteurs et nécessairement, ces considérations-là, ça crée une forme d'incertitude ou même d'anxiété pour les acheteurs. Les gens qui ont acheté à taux variable, c'est vraiment eux qui, en ce moment, voient la proportion de leur mensualité aller le plus fortement vers la banque. C'est-à-dire, il y a de moins en moins d'argent qui s'en va vers le capital, donc le remboursement de leur prêt hypothécaire, parce que les taux sont très élevés. C'est ça qui fait qu'on parle d'un prêt de 30 ans qui est de plus en plus populaire cette année. C'est de l'inédit, du jamais vu. C'est un concept qui semble très théorique, mais quand j'en parlais avec Émilie, c'est elle-même qui m'a partagé des préoccupations qui sont finalement très concrètes.
Qu'est-ce qui s'en vient? On ne sait pas. Il va-t-il avoir une récession? Va-t-il, finalement, les maisons vont valoir 100 000 de moins? Les taux d'hypothèque qui continuent à monter?
Puisque peu de gens sont prêts à faire le grand saut, il y a quand même moins de compétition. Et ça se reflète dans le délai moyen de vente qui a augmenté quand même de 15 jours dans la dernière année. Et donc, les acheteurs, cette année, ont les moyens de réfléchir avant de vraiment faire une offre d'achat.
Lauriane, tout ce portrait-là, ça donne un mélange, je dirais, complexe d'espoir, de réalisme aussi en même temps pour ceux qui veulent acheter, surtout une première maison. Merci d'être venu au balado.
Ça fait plaisir.
C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.